Et je crois que dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire du monde, hein, on voit qu'un véritable homme de Dieu ou une femme de Dieu se caractérise toujours par des personnes qui ont une véritable vie de prière. On a beaucoup d'exemples dans l'Écriture, et si vous lisez l'histoire de l'Église, les hommes qui, par exemple, nous regardons avec admiration pour ce qu'ils ont fait, eh bien, on sera surpris de voir le temps, l'intensité qu'ils avaient dans la prière. Alors, la Bible, bien sûr, contient plusieurs sortes de prières. Et on trouve des prières d'adoration, des prières de confession, de repentance. Mais nous voulons considérer ce matin une prière d'intercession. Parce que la Bible parle aussi de la prière d'intercession. Et la prière d'intercession, c'est la prière pour les autres. La prière pour les autres. Intercéder, c'est se placer entre un peu et puis donner. Donc, c'est prier pour les autres. Et nous le considérons parce que l'Écriture nous exhorte aussi à le faire en Éphésiens chapitre 6 au verset 18. L'apôtre Paul disait « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. » Il y a toutes sortes de prières, de supplications. Donc, il demande même de veiller à cela avec une entière persévérance. Donc, nous sommes exhortés à faire toutes sortes de prières. Alors, nous voulons lire, nous avons lu déjà le texte de notre prédication ce matin. Donc, c'est dans Exode, chapitre 32, que je vous demande de reprendre. Exode, chapitre 32. Exode 32. Exode 32. Et nous allons relire quelques versets de ce passage. Alors, bien sûr, c'est la prière d'intercession de Moïse. Et j'ai intitulé cette méditation « L'intercession puissante d'un homme de Dieu ». L'intercession puissante d'un homme de Dieu. Le peuple, chapitre 32, verset 1, Exode, chapitre 32, verset 1, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles, aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et il dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se leva pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et lui ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Nous voulons considérer ce matin, premièrement, le contexte de cette intercession de Moïse, de cet homme de Dieu, cette intercession puissante d'un homme de Dieu. Le peuple, nous dit ce passage, et se détourne promptement de Dieu parce qu'il ne voit pas Moïse. Moïse est sur la montagne, convoqué par Dieu, il reçoit les tables de la loi, mais comme il prend du temps, eh bien, le peuple, ici, on le voit, se détourne de Dieu. Ils ont fait faire à Aaron un veau et ils ont commencé à adorer par l'intermédiaire de ce veau-là. Donc, ils violent ainsi le commandement que Dieu donne. Si vous lisez Exode chapitre 20, quelques chapitres avant, vous allez voir que Dieu avait donné cet ordre. Tu n'auras point, il dit, d'abord commence avec « Je suis l'Éternel ton Dieu », Exode 20, verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, en bas, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, Moïse avait dit cela, cela s'inscrit sur les tables de la loi. Il n'est pas encore descendu que le peuple avait déjà commencé à violer la loi de Dieu. Et Dieu parle de leur péché dans des termes très forts. Versets 7 et 8 de notre passage d'Exode 32, il dit, l'Éternel dit à Moïse, il faut bien comprendre, c'est pas juste, Dieu ne dit pas cela à la légère. Chaque chose qu'il dit ici est importante. Il dit, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Vous remarquez que Dieu dit à Moïse que c'est ton peuple. Et puis il dit que tu l'as fait sortir, c'est comme s'il se démarquait de ce peuple, un peuple qui pêche, peut pas être, on a l'impression que c'est presque cela, ne peut pas être son peuple. Il dit, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrit, ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et Dieu dit, quelque part, c'est grave ce qu'ils ont fait. Mais écoutez comment Moïse parle au peuple un peu plus loin, chapitre 32, verset 30, il dit, le lendemain, il s'est passé des choses entre temps, on n'aura pas le temps de tout lire, mais il dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Il dit, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. L'expiation de vos péchés. C'est dire à quel point Moïse considère que ce que le peuple a fait est grave. Il dit, vous avez commis un grand péché. Vous avez été idolâtre. Et l'idolâtrie est la mère de tous les péchés. Dieu est, quand on lit les Écritures, on voit que Dieu est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce que l'on peut mettre à la place qui revient à Dieu seul. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi, ça peut être son sport, ça peut être son loisir, n'importe quoi peut constituer ici l'idolâtrie. Et Dieu voit que ce peuple se détourne promptement de lui et il est en colère. C'est ce que l'on voit dans ce texte. Parce que Moïse dit, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle ? Il dit, reviens de l'ardeur de ta colère. Donc le contexte dans lequel Moïse intercède, prie pour ce peuple est un contexte extrêmement dramatique. La colère de Dieu et l'imminence de son jugement, eh bien, sont là. Il dit que Dieu, par exemple, on voit en Deutéronome 9, on pourrait lire, hein, on n'aura pas le temps, mais il parle un petit peu des mêmes événements. Il dit, l'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide, laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Et Moïse, la situation est tellement, tellement, tellement grave, il mesure la colère de Dieu qu'il en est même effrayé. Hein. Si vous lisez le chapitre 9 de Deutéronome, verset 19, vous allez voir ceci, il dit, « Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. » Ce n'était pas juste quelque chose que Dieu a dit en l'air comme ça. Il dit, « J'étais effrayé quand j'ai vu dans quelle colère ardente était Dieu et sa détermination de vous détruire. » Donc Moïse, si vous voulez ici, est pris pour le peuple dans une telle situation. Peut-être, je ne sais pas ce que nous aurions fait dans une telle situation, hein, si Dieu nous avait proposé de détruire et puis de faire avec nous un peuple nouveau, hein, une nation grande et plus puissante. Peut-être dirions-nous, oui Seigneur, c'est vrai, ils sont pas, ce peuple il n'est pas terrible. Hein, on va essayer comme tu dis, hein, après tout c'est ta volonté. Hein, je ne sais pas ce que nous aurions dit ici à la place de Moïse. Mais ce que l'on peut voir, c'est que Moïse, quand il est conscient de l'ampleur du péché, de la grandeur du péché et de l'ampleur de la colère de Dieu, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il prie. Tout de suite, il prie avant même de descendre. Il n'est pas encore descendu vers le peuple. Il prie Dieu. Il prie Dieu. Et le texte nous dit, verset 11, « Moïse implora l'Éternel son Dieu. » Ça, c'est le contexte dans lequel Moïse a prié, a intercédé pour ce peuple. Il est conscient que c'est un peuple rebelle. Un peu plus loin, Moïse dira, vous avez été rebelle depuis le commencement, dès le début. Il dit, vous avez été rebelle depuis que vous êtes sortis du pays d'Égypte jusqu'à arriver en Canaan. C'est un peuple au courage, Jésus dit, c'est un peuple qui a été constamment rebelle. Mais cela n'a pas empêché Moïse néanmoins d'intercéder pour ce peuple, malgré le contexte difficile. Et je devrais dire même que c'est précisément parce que le contexte est difficile, parce qu'il semble n'avoir aucune issue, aucune possibilité d'échapper à cela, que Moïse intercède pour le peuple. Et donc le serviteur de Dieu, c'est celui qui saisit les situations comme autant d'occasions pour prier et pour intercéder pour ses frères et sœurs. Il ne fuit pas quand la situation est difficile. Il ne dit pas, oui Seigneur, c'est vrai, il mérite, fais-le. Non, il implore Dieu, il s'interpose presque, pour détourner la colère de Dieu. C'est ce que on peut voir, hein, si vous lisez par exemple Psaume 106, verset 23, l'auteur dit, il, en parlant de l'Éternel, dit, il parla de les détruire, mais Moïse, son élu, se tint sur la brèche pour détourner sa fureur. Il dit que Dieu avait parlé de détruire, mais Moïse s'est tenu dans cette brèche qui a été établie à cause du péché du peuple pour intercéder en faveur du peuple. Et donc l'intercession se place souvent dans des contextes qui sont parfois difficiles et dramatiques. Mais l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur de Dieu, le croyant, eh bien, quand il est au courant de ces choses, eh bien, il prie, il intercède pour les autres. Ça, c'est la première chose que l'on peut voir ici. Deuxièmement, j'aimerais attirer votre attention sur les arguments de l'intercession de Moïse. On a vu le contexte de son intercession, mais les arguments de son intercession. Face à une telle situation, Moïse doit plaider, n'est-ce pas, auprès de Dieu en faveur du peuple. Mais comment est-ce qu'il va le faire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Qu'est-ce qu'il peut avancer dans une telle situation? Ce que Dieu dit du peuple est exact. Ce que Dieu a comme intention est juste. Et qu'est-ce qu'il pourrait dire face à une telle colère? Ce n'est pas une allumette qu'il s'agit d'éteindre ici. C'est un feu, il dit. Hein? Il dit c'est le feu de la colère de Dieu. Je vous relis donc ce psaume qui dit ici, il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Quels sont donc les arguments de Moïse? Essayez d'imaginer quels auraient été vos arguments si vous deviez intercéder pour un frère, pour une sœur, pour un non-croyant. Ce que l'on voit ici, c'est que Moïse prie, Moïse intercède en considérant les choses du point de vue de Dieu, essentiellement du point de vue de Dieu. Regardez ce qu'il dit, verset 11. Il dit, « Pourquoi, ô Dieu, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?» Premièrement, Moïse évoque la relation qui existe entre Dieu et ce peuple-là. Dieu avait dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, il s'est corrompu. Mais Moïse dit, c'est ton peuple. Il dit, ô Dieu, pourquoi est-ce que ta colère éclaterait contre ton peuple? Il parle du fait que Dieu a adopté ce peuple. C'est toi qui l'as adopté, c'est toi qui l'as choisi. Ce n'est pas moi. On a lu tout à l'heure dans Deutéronome, je pense, chapitre 7, hein, que c'est Dieu qui a choisi ce peuple. Et il ne l'a pas choisi, il l'a choisi du milieu d'un tas d'autres peuples, pas parce que le peuple était bon, parce qu'il était plus grand, plus gentil que les autres, mais simplement parce qu'il aimait. Moïse lui dit, mais tu as aimé ce peuple, tu l'as choisi. C'est ton peuple. Et donc il évoque le lien, la relation qu'il y a de par Dieu lui-même entre lui et ce peuple-là. Deuxièmement, ici il évoque la puissance salvatrice que Dieu a déployée pour délivrer ce peuple. Il dit ici, regardez encore le verset 11, « Ô Dieu, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?» Malgré que ce peuple ait péché, il demeure le peuple de Dieu, objet d'une puissante délivrance de la part de Dieu. Tu l'as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance. Qui aurait pu faire une telle chose? Pas moi. Un homme n'aurait pas pu délivrer ce peuple de cette manière-là. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui a mis en œuvre cette puissance pour délivrer ce peuple. D'ailleurs, lorsque plus tard Dieu parlera au peuple quand il va rentrer en Canaan, il lui parle beaucoup du fait de ne pas oublier qu'il a été délivré par une main forte et par un bras étendu. De ne pas oublier que c'est Dieu qui l'a délivré. Il dit, lorsque vous serez dans l'abondance, n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et donc Dieu ne veut jamais que le peuple oublie cette délivrance. Et là, Moïse rappelle, si on pourrait dire quelque part, hein, à Dieu qu'il a déployé une grande puissance pour délivrer ce peuple. Et maintenant, il les laisserait tomber, il les consumerait et dit, non, Dieu, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle après cette force que tu as mis pour sauver ton peuple? Cette situation s'est présentée, on pourrait dire, à peu près deux fois dans le livre de l'Exode. Vous vous rappelez quand le peuple arrive au pied de Canaan, à l'entrée de Canaan? Ils envoient des espions et puis les espions reviennent et puis ils disent « Oh, le pays, il est rempli de géants, on ne peut pas y aller. » Eh bien, le peuple refuse de rentrer en Canaan. Et Dieu intervient encore et il dit à Moïse « Je vais les détruire. Mais avec toi, je ferai une grande nation. Et Moïse intercède encore de la même manière. Et écoutez ce qu'il dit. Et lui, il raconte plus tard au peuple. Hein. Donc, vous pouvez trouver ça dans Nombre, chapitre 13 et 14. Mais ici, dans Deutéronome, Moïse rappelle au peuple ce qu'il a fait à ce moment-là. Il dit, « Je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel et je dis, « Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté par ta grandeur et que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. » Voilà comment Moïse intercède. Tout du côté de Dieu. C'est ton choix. C'est ta puissance qui a été déployée à l'égard de ce peuple. Et puis Moïse va un peu plus loin, il dit au verset 12, regardez ici. Il parle, il évoque, il fait mention de la réputation de Dieu aux yeux des nations. Verset 12, il dit, « Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer ?» Moïse est soucieux, on pourrait dire, du « Quand dira-t-on de Dieu ?» Que vont dire les nations quand elles vont apprendre cela ? On peut voir, il dit la même chose aussi dans « Après l'histoire de Kadesh Barnéa » au pied de à l'entrée de Canaan, il dit exactement les mêmes choses. Que vont dire les nations, tous ces peuples? Ils vont dire que tu n'avais pas la capacité de mener ce peuple dans le pays. Regardez Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Et à partir du verset 11. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Donc ça c'est après le retour des espions. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Et je le frapperai par la peste, et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront. Eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que ta puissance se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Ici. Vous voyez comment Moïse prie à Dieu, il prie Dieu uniquement sur la base de ce que Dieu est, sur la base de ce que Dieu a fait, sur sa puissance, sur ce qu'il a déployé comme puissance, sur la réputation qu'il doit maintenir. Tu es un Dieu grand, les nations doivent le savoir. Dieu lui-même, il dit, vous saurez que je suis l'Éternel quand vous verrez ceci ou cela. Donc Dieu veut que l'on sache qui il est. Arrêtez et sachez, dit-il, que je suis l'Éternel. Et Moïse dit, mais cela va ternir ton image auprès des nations. Et donc Moïse plaide pour que Dieu maintienne sa réputation et que l'on sache qui il est véritablement. Un autre aspect de cette intercession encore, regardez au verset 13, Moïse dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même. Tu as fait une promesse avec serment auprès d'eux. Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Moïse évoque l'alliance, on l'a dit tout à l'heure, de Dieu avec les pères. Moïse rappelle à Dieu sa promesse faite aux pères. Dieu est celui qui garde son alliance, on l'a dit tout à l'heure. Alors Moïse brandit ça comme une arme qu'il présente devant Dieu pour le détourner de sa colère. Et donc, ce sont là, chers frères et sœurs, les arguments de Moïse. Ils sont tous en Dieu. Parce que vous avez remarqué, tout ce qu'il dit ne concerne que Dieu. Pas une seule parole concernant le peuple. Il ne dit pas, parle même pas de leur faiblesse. Il ne parle même pas des circonstances atténuantes qu'ils auraient pu avoir, des circonstances difficiles du désert. Vous savez, le désert, le soleil, ça fait peut-être perdre un peu la tête et tout ça, ils ne font pas. Non, il ne dit pas tout ça. Il ne fait pas mention de leur passé d'esclaves. Ce sont des esclaves. Ils ont vu tellement ça dans leur enfance. Ils ont grandi. Ça fait 430 ans d'esclavage. Ça laisse des traces. Rien de cela. L'intercession de Moïse est focalisée uniquement sur Dieu. On pourrait dire qu'elle est théocentrique. Il se fonde uniquement sur Dieu pour réclamer plus tard, versets 30 à 32, le pardon pour le peuple. Ici. Et c'est ainsi que les intercesseurs, ce pourrait dire quand on regarde dans la Bible, agissent aussi. Je prendrai juste un exemple. Daniel, par exemple. Lorsque Daniel lit, il dit qu'il lit dans les livres et qu'il voit que les 70 années, il lit le prophète Jérémie. Okay, et il voit dans le prophète Jérémie, chapitre 29, que Dieu avait dit qu'au bout de 70 ans, il va délivrer son peuple, il interviendra et il délivrera son peuple de la servitude babylonienne. Eh bien, il dit qu'il se met à prier. Il se met à prier. Et écoutez ce qu'il dit dans un moment dans sa prière. Il confesse le péché du peuple. Mais il dit maintenant, Daniel 9, 17 par exemple, « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. » Vous voyez, Daniel prie, il dit à Dieu, par amour du Seigneur. Il dit, pas à cause de notre justice, il n'y a aucune justification à voir dans ce que nous avons fait. Rien pour nous. Il dit, gloire pour toi et confusion de face pour nous, il dit un peu plus tôt dans ce chapitre. Mais il dit, à cause de tes grandes compassions. Et c'est toujours ainsi que l'enfant de Dieu doit intercéder. En s'accrochant à ce que Dieu est, en s'accrochant à l'alliance qu'il a établie, en lui rappelant même ses promesses, lui rappelant ce qui est sorti de sa bouche, ce qu'il a promis. Ce n'est que ça qui a du poids, n'est-ce pas, dans l'intercession que l'on peut avoir auprès de Dieu pour les autres. Et c'est un enseignement ici pour nous. Quels sont les arguments que nous avançons lorsque nous intercédons, parfois les uns pour les autres? Il arrive qu'on dise, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut demander. Il faut en dire à quelqu'un, je prie pour toi. Et puis il dit, mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu pour moi? Et eux, on est un peu coincé parce que, on n'avait pas pensé un peu à tout cela. Mais Moïse ici montre que les arguments que Moïse utilise sont tous centrés sur Dieu, sur sa grâce, sur son adoption, sur sa puissance, sur ce qu'il a fait. Et pour lui dire que tu ne peux pas revenir en arrière après avoir fait tout cela. Alors, Seigneur, pardonne à ce peuple. Et puis, troisièmement, je voudrais vous faire voir ici, chers frères et sœurs, le résultat de l'intercession. Verset 14. Il dit, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Je ne sais pas si vous voyez le contraste entre la situation initiale et puis le verset 14. Le drame qui se jouait. Moïse était effrayé, dit-il, à vue de la colère de Dieu. Ça allait se passer, ça allait tomber. Et là, après son intercession, eh bien, nous lisons, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait pensé vouloir faire à son peuple. Mais nous devions quand même bien comprendre que quand il est dit que Dieu se repentit, hein, ça ne veut pas dire que Dieu dit « Ah, bon, ah, j'ai mal pensé, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Oh, pardon, je me suis trompé. » Et on fait bobinage arrière et puis je recommence. C'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Dieu n'a pas rectifié sa pensée. Dieu n'a pas dit « Ok, Moïse, tu as raison, je n'avais pas pensé à ça. Merci, je retire ce que j'ai dit. » Ça nous arrive souvent. Mais pas à Dieu. Ce que Dieu fait est parfait. Il ne commet jamais d'erreur. Il est éternellement saint. La Bible enseigne que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, par ailleurs. Nombre chapitre 23, verset 19, il dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Alors on peut se dire, mais c'est compliqué un petit peu, parce qu'il dit qu'il va toujours accomplir ce qu'il a dit. Là, il dit qu'il va détruire, et puis il ne le fait pas, il se repent. Il faut bien comprendre ce qu'est le plan et la volonté de Dieu. L'Éternel, nous est-il dit dans d'autres passages, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Donc quand il est question que Dieu se repentit, il n'est pas dit que ce n'est pas comme nous quand nous nous repentons parce que nous avons péché. Le sens du mot, c'est souvent le sens que Dieu est confortable. Quand il dit, il est à l'aise avec une situation. C'est-à-dire, donc, quand Dieu se repent de ce qu'il a voulu faire, il est maintenant à l'aise avec la situation telle qu'elle se présente. Alors, il agit conformément à ce qu'il est lui-même, parce que la situation est satisfaisante. D'accord? Mais c'est pas comme si il a changé de plan, parce que bon, il y a des choses qui sont venues. Et... Non, Dieu dit que la Bible, Dieu ne change jamais de plan. Ses desseins sont des desseins éternels. Donc, s'ils sont éternels, ils sont décidés depuis l'éternité. Ils se poursuivent. Il n'y a rien qui puisse venir et interférer dans le plan de Dieu. Alors, comment comprendre ces textes? Il faut aussi comprendre que lorsque la Bible s'adresse, elle est écrite pour nous, s'adresse à des hommes. Elle parle avec un langage aussi qui est un langage humain. Elle ne parle pas avec un langage divin, elle parle avec des mots que l'on peut comprendre. Et donc, elle utilise ce qu'on appelle des anthropomorphismes. C'est comme la Bible dit, les yeux de l'Éternel sont partout. Mais Dieu, il est esprit. Il n'a pas des yeux, des mains. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous secourir. Il n'a pas des bras, des mains, des pieds, il n'a pas de corps. Dieu est esprit. Mais pour que nous puissions comprendre le fait qu'il connaît tout, qu'il sait tout, la Bible cherche à exprimer les attributs de Dieu à travers ce qu'on appelle des anthropomorphismes et des choses que nous pouvons comprendre aussi. Et quand il dit que Dieu se repent, eh bien je crois qu'il utilise la même forme de langage pour nous exprimer un peu que Dieu est, voilà, il peut changer une situation, il ne change pas son plan global, mais à l'intérieur de son plan global, il peut projeter de faire quelque chose parce que cela est lié à une situation, mais la situation devient autre, et Dieu, eh bien, il est à l'aise avec cela, et il suspend le jugement qu'il avait prévu de, par exemple, de faire tomber sur, notamment, les Israélites ici. Si vous lisez, par exemple, Jérémie chapitre 18, regardez Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Il faut comprendre que le plan de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas son plan de la prière. Aucune prière ne peut pousser Dieu à changer son plan. Il dit soudain, Jérémie 18, verset 8, il dit « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, je n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais l'intention de lui faire. On peut dire que, si on peut bien comprendre, que tout ça, c'est le plan de Dieu. C'est-à-dire que le plan de Dieu, c'est de dire quelque chose qu'il va faire, en l'occurrence, dans ce type de domaine, mais il inclut aussi dans son plan le changement d'attitude que peut avoir une nation, et donc il peut revenir sur, il dit que je reviens sur ce que j'ai dit, je me repens, je reviens sur ce que j'ai dit. Ce n'est pas que, d'une manière générale, Dieu change, il a prévu un plan, un dessein éternel, et puis il change de ce dessein parce que, bon, les situations ont changé, il n'avait pas pris compte. Il n'avait pas tenu compte de ça, donc il est obligé de changer de pensée ou de mentalité sur quelque chose. Pas du tout. Ça veut dire que dans son plan, il a prévu que s'il y a changement d'attitude, je retiens la punition. On pourrait dire ça comme ça. Ça fait partie de son plan. La prière, en fait, fait partie du plan de Dieu. Dieu a décrété comment, on dit que Dieu a décrété que les hommes seraient, comment, que les hommes seraient sauvés, qu'il sauverait des hommes, mais il a décrété comment il le ferait, par la prédication de l'évangile. Donc la prédication de l'évangile est le moyen que Dieu utilise aussi pour accomplir sa volonté. La prière en est un autre. Dieu a décrété qu'il va accorder des choses à ses enfants, mais il a décrété que c'est par la prière aussi qu'il va le faire. Donc Dieu décrète à la fois, on dit, la fin, le but et les moyens par lesquels les choses. Il est souverain à la fois sur la fin et les moyens. Et donc il a prévu même les prières de ses enfants. Il a intégré cela dans son plan. Et c'est pour cela que lorsque l'on prie, il y a des choses qui peuvent changer, pas le plan de Dieu. Son plan, c'est qu'il y a des choses qui peuvent changer avec la prière. Donc ça fait partie de son plan. Donc son plan ne change pas. D'accord ? Mais il a prévu que par nos prières, il y a des choses qui changent. Et on le voit, il dit dans Jacques chapitre 4, verset 2, Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et Jésus lui-même, il a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. D'accord ? Celui qui, quiconque demande, reçoit. Il n'a pas dit, tout le monde reçoit. Il dit, quiconque demande, reçoit. Donc Dieu a prévu d'agir avec la prière. Et souvent, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que, on reprend l'exemple de Daniel. Daniel, il lit dans l'écriture que Dieu va délivrer son peuple au bout de 70 ans. On arrive au bout de 70 ans et qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas, mais ça c'est le plan de Dieu, ça va se réaliser coûte que coûte. Non, la connaissance de ce plan de Dieu fait quoi? Lui pousse à prier pour la réalisation du plan de Dieu. Et donc Dieu a prévu, oui, de faire cela, mais il a prévu que ses enfants prieraient aussi. Alors regardez encore Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, ici. Jérémie chapitre 29, je crois que c'est bien 29. Verset 10, Jérémie chapitre 29, verset 10. Dieu dit, voici ce que dit l'Éternel, Jérémie dit cela de la part de Dieu, dès que 70 années seront écoulées pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Ça, c'est ce que Dieu a décrété. 70 ans, pas un jour de plus. Voilà ce que je ferai. Et il le fera. Et il ajoute, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Il dit, voilà, je vais vous délivrer. Je vais le faire. Ça, c'est son décret. 70 ans. Pas un jour de plus. Et il ajoute, vous me prierez et je vous exaucerai. Et c'est ce que Daniel fait. D'accord? Donc il a prévu à la fois ce qu'il va faire et le moyen par lequel il va le faire. Et donc la prière n'est pas dissociée du plan de Dieu. Celui qui prie ne doit pas penser qu'il est un agent extérieur qui vient et puis qui tente d'influencer Dieu pour qu'il change ce qu'il a prévu de faire. Non, on n'est pas des agents indépendants. En fait, Dieu a intégré dans sa souveraineté et dans sa prédétermination même nos prières. Et c'est ce que Spurgeon explique bien. Il dit ceci, il dit ici, nos prières font partie de la prédestination et Dieu a prévu les prières de son peuple au même titre que toute autre chose. D'accord ? Dieu a prévu donc les prières de son peuple au même titre que toute autre chose. Okay. Donc en priant, il disait à un moment donné, en priant, nous ne faisons que constituer les chaînes de ce grand maillon de la prédestination, de la volonté de Dieu. Et donc cela est important, chers frères et sœurs, il est important pour nous plutôt de considérer vraiment toutes ces choses. La prière fait partie. Donc ici, Dieu, en fait, avait intégré la prière, on pourrait dire, de Moïse là-dedans, dans ce qu'il a fait. D'ailleurs, si Dieu dit à Moïse, voilà ce que je vais faire, c'est bien parce qu'il voulait que Moïse prie. C'est la volonté de Dieu que Moïse prie. Sans quoi il aurait pu détruire ce peuple sans même en faire mention à Moïse. Mais il lui parle. Comme à Abraham, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et qu'est-ce qu'Abraham fait quand Dieu lui dit ce qu'il va faire? Il prie. Il dit, Seigneur, est-ce que tu vas détruire le juste avec l'injuste? S'il y a, ok, il parle de 50 justes, etc. Il a eu jusqu'à 10 justes. Vous rappelez cela dans la Genèse. Je voudrais terminer avec donc quelques conclusions ici. Dire que c'est important donc pour nous d'intercéder, de prier. Le fait que la Bible dit ici que Dieu a changé d'avis ne doit pas nous faire croire que c'est quelque chose d'automatique ou de magique. Il suffit de prier pour que Dieu se repente de ce qu'il avait fait. Il y a des situations où Dieu il est souverain dans la réponse qu'il donne aussi, je veux dire. Il y a des situations où Dieu suspend son jugement, il y a des situations où il ne le fait pas. Si vous vous rappelez de ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 15, ben, je vais vous lire, ne cherchez pas. Hein. Jérémie chapitre 15, pardon, au verset 1, Jérémie dit, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. C'est en train de dire, même si des intercesseurs tels que Moïse et Samuel venaient pour intercéder en faveur de ce peuple, je ne répondrai pas favorablement. Donc, chasse ce peuple loin de ma face. Il y a des moments où Dieu... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, même la prière la plus fervente de l'intercesseur le plus fervent, ne peut pas changer ce que Dieu a dit. Il est souverain aussi dans ce qu'il change. Okay. Mais comme nous ne savons pas ce qu'il changera ou pas, nous avons la responsabilité d'intercéder, d'être comme Moïse, d'intercéder en faveur des saints. L'Écriture nous appelle tous les croyants à être des intercesseurs. Si vous lisez, 1 Timothée 2, 1 dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Donc nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à prier, à intercéder pour les rois, il dit, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour les gouvernements, mais aussi pour tous nos frères et sœurs. L'apôtre Paul disait, priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, je puisse annoncer le mystère de l'Évangile. Donc, nous avons à prier les uns pour les autres. L'Écriture nous exhorte fortement à le faire. Et c'est un péché que de ne pas prier pour les autres. Lorsque le peuple demande un roi, Samuel dit au peuple, loin de moi aussi, de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Il dit, je ne cesserai pas de prier pour vous. Et loin de moi la pensée de pécher même contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Donc le fait de ne pas intercéder pour les frères et sœurs, pour les autres, pour les non-croyants, c'est même un péché. Deuxièmement, on pourrait dire que pour l'homme de Dieu, pour le chrétien, tout ce qu'il reçoit comme révélation dans l'Écriture, ou de promesses, ou même des situations particulières qui viendraient à sa connaissance, sont des appels à la prière. Je disais tout à l'heure, Moïse est informé par Dieu de l'état spirituel du peuple et de son intention à son égard. Mais ce qu'il fait, il prie tout de suite. Dieu aurait pu détruire ce peuple. Il laisse un temps, il informe Moïse. Il dit, va, descends, ton peuple a fait ceci. Et je suis certain que c'était la volonté de Dieu que Moïse intercède pour ce peuple. Et j'en veux pour preuve ce que l'Écriture nous enseigne ailleurs. Regardez avec moi Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22. Verset 30, il est dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet la rapine, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Écoutez cela, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu dit, je cherche un intercesseur, c'est ce qu'il dit ici, hein. Comme Moïse, Moïse qui s'est tenu sous la brèche pour détourner la colère de Dieu, psaume 106, verset 23. Ici, Dieu dit, je cherche un intercesseur, mais je n'en trouve pas. Quelqu'un qui se tienne sous la brèche et qui m'empêche de détruire, mais il dit, je n'en trouve pas. C'est la volonté de Dieu que l'on se tienne en intercesseur pour les uns et pour les autres, et pour prier. Que Dieu leur fasse grâce. Isaïe, ne cherchez pas, mais je vous lis Isaïe 59 et au verset 16. Isaïe 59, verset 16. Ici, la Bible dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Dieu voit qu'il n'y a pas un homme. Il dit, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Verset 16, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Dieu s'étonne même de fait que parfois personne n'intercède. Et un peu plus loin, il dira, chapitre 64, il dira, « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face. » Bien souvent, voilà, nous sommes secs et nous... pas beaucoup de communion avec Dieu parce qu'il n'y a personne qui se lève pour chercher la face de Dieu. Personne qui se tienne sous la brèche pour intercéder en faveur des saints. Et puis, je dirais que aussi la prière est le moyen désigné par Dieu pour l'accomplissement de ses desseins éternels. Donc nous devons prier parce que Dieu a prévu la prière pour l'accomplissement de ses desseins. Moïse rappelle à Dieu son dessein à l'égard du peuple. Et le prophète rappelle à Daniel aussi, rappelle à Dieu son dessein à l'égard du peuple. Mais tout ça, ils le font dans la prière. Dieu a prévu la prière dans l'accomplissement de ses plans divins. Et donc, il est important pour nous de prier. La prière, bien sûr, je veux dire, en plus, ne change pas le plan de Dieu. Néanmoins, elle change des choses. Si vous croyez, quelqu'un disait... Dieu a décrété que Christ reviendra. Personne ne peut prier que Christ ne revienne pas. Il reviendra. Que vous priez pour hâter sa venue, comme il dit dans l'Évangile, ou que vous ne priez pas, il reviendra. Mais il y a des choses qui ne se produiront pas, à moins que l'on prie. Puisque Jacques dit, ici, que vous ne recevez pas, vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Autrement dit, il y a des choses que l'on a que par la prière. Donc nous sommes encouragés à prier. Nous sommes encouragés à prier. On ne sait pas ce qui se serait passé si Moïse n'avait pas prié. Il a prié pour que Dieu détourne sa colère de ce peuple. Un théologien dit ceci, il dit, si nous étions convaincus que Dieu change les choses en réponse à la prière, comme l'Écriture l'enseigne à maintes reprises, alors nous prierions beaucoup plus que nous ne le faisons. Si nous prions peu, c'est parce que nous ne croyons pas vraiment que la prière puisse changer grand-chose. Si nous prions peu, c'est parce qu'en fait, dans le fond, nous ne croyons pas vraiment que la prière puisse changer grand-chose. Mais l'Écriture enseigne que la prière du juste a une grande efficacité. Ici. Moïse, chers frères et sœurs, je termine avec ça, n'a pas prié quelques secondes ou quelques minutes pour le peuple. Mais il le dit plus loin, il a prié, vous savez combien de temps? 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire que le vrai intercesseur prend le temps dans la prière pour présenter les choses à Dieu. Et une lecture attentive du Pentateuque nous laisse voir que Moïse était un homme de prière. Il y a beaucoup d'endroits différents où il est dit que Moïse a prié. Moïse a prié pour Pharaon. Moïse a prié pour que le feu s'éteigne à un moment donné. Moïse a prié pour Myriam, sa sœur, qui avait la lèpre. Moïse, constamment, on voit Moïse qui prie Dieu. Parfois, c'est sur le peuple qui vient lui, qui dit, prie pour nous, pour qu'on soit délivrés. Et Moïse le fait. Et Dieu agit. Et Dieu agit. C'est un homme qui a passé du temps dans la prière. C'est un homme qui a eu une véritable vie de prière. Il priait ainsi parce qu'il aimait Dieu et il aimait le peuple de Dieu. L'intercesseur, c'est celui qui aime Dieu au point de lui rappeler tout ce qu'il a dit, mais qui aime le peuple de Dieu au point qu'il prie, et je lis juste ce qu'il dit à la fin de notre passage en Exode, au chapitre 32, verset 30, il dit à Dieu, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est dire à quel point il est attaché à ce peuple. C'est comme s'il disait, je préfère périr avec ce peuple. Oui, c'est bien. D'accord, c'est... Certains pensent qu'il parlait même du fait de mourir, quoi. Je préfère périr avec ce peuple. Mais pardonne-le. Je crois que l'apôtre Paul a dit à peu près la même chose quand il a dit, j'aurais voulu être anathème, hein, pour que mon peuple puisse connaître Christ, puisse connaître l'évangile. C'est à montrer à quel point, ce que la Bible montre ici, c'est à quel point son cœur est attaché au peuple. L'intercesseur aime les autres. Il aime Dieu profondément. Il est soucieux de la réputation de Dieu, de sa gloire. Il s'accroche aux promesses de Dieu. Mais il aime profondément le peuple au point de demander avec ferveur à Dieu de lui pardonner. Et c'est ce que Dieu attend aussi de nous lorsque nous sommes au fait de situation. C'est que nous soyons pleins d'amour les uns pour les autres dans la prière. Que nous portions nos frères et sœurs, dans la prière devant Dieu. Christ est l'unique médiateur par lequel toutes les prières des rachetés sont présentées à Dieu. Nous ne sommes pas des médiateurs. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur, Jésus-Christ. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Mais nous prions par Jésus-Christ. C'est par lui que nous avons accès auprès du Père. Donc toutes nos prières sont en Christ, par lui, qui est l'intercesseur par excellence. Et grâce au sacrifice duquel eh bien, nous avons accès auprès du Père, même pour présenter, pour prier, pour porter, nous porter les uns les autres devant le Seigneur. Que Dieu nous aide à saisir ces choses et qu'il nous donne d'aimer venir à lui dans la prière, et particulièrement dans l'intercession les uns pour les autres. On voit que Dieu a répondu favorablement à la prière de Moïse, parce qu'il a prié selon aussi la volonté de Dieu. Dieu est prêt à donner des choses à ceux qui les lui demandent. Soyons des intercesseurs fidèles. La parole nous le demande. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ces choses et nous te demandons de nous aider à les vivre. Tu appelles tous tes enfants à être des intercesseurs. Ce n'est pas un service réservé à une classe de personnes, mais c'est une attitude que tu attends de la part de chacun de tes enfants. Tu veux qu'ils élèvent des mains pures, qu'ils prient pour tous les hommes, tout lieu. Et je te prie que tu nous donne des cœurs soumis pour obéir à ta parole. Merci pour l'exemple de Moïse que nous avons eu, qui était lui le type même de l'intercesseur par excellence, Jésus-Christ, qui est ressuscité, qui est au ciel et qui intercède pour nous. Merci pour ton esprit que tu mets en nous et qui nous aide dans notre faiblesse parce que nous ne savons pas souvent ce qu'il convient de demander. Mais il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donne-nous d'embrasser et d'accomplir pleinement cette mission qui est aussi la nôtre, d'être des intercesseurs les uns pour les autres, que nous portions par Jésus-Christ les uns et les autres dans nos cœurs et devant ton trône de la grâce, pour la gloire de ton nom. Amen.